Bonjour à toutes et à tous, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Michel Clément tous les mercredis et les samedis sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter, ce dont je vous remercie. Avec aujourd'hui à mes côtés, celle que vous connaissez désormais et sans laquelle, bien sûr, le messager du cheval boit très bas, on va dire. C'est bien sûr, vous l'avez reconnu, Virginie Bauer.
Bonjour Michel.
Alors Virginie, dans moins d'un mois, nous fêterons Noël. Hein. Ça se rapproche, sans doute la fête la plus importante de l'année, le moment où les familles se retrouvent. Mais c'est aussi le moment des étrennes. Chacun découvrira, installé sous le traditionnel sapin, bien sûr. Et alors étrennes, on va s'amuser un peu, c'est un mot joyeux, bien sûr, qui nous vient du latin et signifie un cadeau pour servir de bon présage à celle ou celui qui le reçoit. De bon présage à celle ou celui qui le reçoit, voilà. Et c'est la raison pour laquelle, Virginie, tu as souhaité que nous proposions aux auditeurs de CFM une série d'ouvrages autour du cheval et de l'équitation.
Oui, car quel moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir de beaux livres et des textes magnifiques qui nous font rêver.
Donc on a fait une espèce de petit choix, toi et moi, entre des ouvrages qui sont peut-être plus scientifiques, plus historiquement exacts, et aussi des ouvrages de loisirs, par exemple, ou des expériences de personnages. Et en particulier, j'aimerais commencer par Les Cavaliers afghans de Louis Meunier, donc que vous trouverez aux éditions Kero, K-E-R-O. Alors, ce gars-là part en Afghanistan en 2002 pour le compte d'une ONG humanitaire. Donc, il faut savoir qu'en 2002, l'Afghanistan venait de sortir d'une guerre extrêmement meurtrière contre ce qu'on appelait encore l'Union soviétique à l'époque. Donc, il y avait vraiment peu... Voilà. Et Louis Meunier découvre en Afghanistan le bouskashi et s'y passionne à tel point qu'il veut devenir lui-même joueur de bouskashi. En deux mots, que Virginie, le bouskashi, c'est quoi en fait?
Oh, c'est très traditionnel, hein. C'est deux clans, on dira, s'affrontent pour s'emparer d'une peau de mouton de manière assez violente.
Absolument, d'autant que le mot bouskashi, en fait, c'est un mot turc. Enfin, ce sont en fait deux mots turcs. Il y a bouz, qui veut dire chèvre, hein, tout simplement, c'est le nom de la chèvre. Et kashi, qui est un verbe, comme tu viens de le dire, qui signifie alors cogner, frapper, percuter, prendre. Bon, et il faut savoir effectivement que dans ce jeu, il y a a priori deux équipes au point de départ, mais en fait, c'est chacun pour soi.
Oui.
Voilà, c'est-à-dire que votre propre partenaire peut vous asséner un bon coup de cravache sur la tête, sans aucun, ou sur la tête du cheval. Enfin bon, c'est vraiment chacun pour soi. Alors ce jeu en fait consiste effectivement à récupérer une dépouille de chèvre et de la porter dans ce que on appelle le rond de justice, qui en afghan se dit le halal, tout simplement. Et ensuite, alors, pour en terminer avec les cavaliers afghans de Louis Meunier, donc il se fera intégrer dans une équipe, il jouera, alors il s'est rendu compte quand même qu'on le ménageait un petit peu, quoi. Bon, voilà. Et ensuite, il deviendra guide de montagne. Donc, il amènera des touristes dans les montagnes du Pamir, qui sont quand même assez hautes. Et il finira son périple afghan en traversant l'Afghanistan à cheval. Voilà, en prenant toutes ces vallées qui se faufilent entre les montagnes. Et actuellement, donc, il se consacre à la production, à la réalisation de films et de documentaires, à la fois pour la télévision et le cinéma. Alors, il y a un autre livre peut-être, je crois que tu l'as lu, qui s'appelle « Une civilisation du cheval » de Carole Ferré, donc que vous trouvez à Belin, mais en tout cas, tu as quand même un peu consulté la thèse de Carole Ferré.
Oui, cette thèse m'a été très utile, notamment quand j'ai travaillé avec Jean-Yves Bonnet sur le livre que nous avons écrit en collaboration.
Il faut d'abord dire que Carole Ferré est une ethnologue et une anthropologue, ça c'est la première chose, et qui effectivement s'est spécialisée dans l'étude des peuples cavaliers du nord de l'Asie, et plus particulièrement des populations qui vivent dans l'Altaï, dont un des peuples les plus importants s'appelle les Yakouts. Voilà, donc elle a travaillé là-dessus, et donc les Yakouts et leurs chevaux bien sûr. Alors, ce sont à la fois des chevaux de bât, pour transporter les colis, de trait, y compris pour l'agriculture, de sel, ça arrive, et parfois même, comment dirais-je, de marmite. Donc, c'est, il n'y a pas que dans le cochon que tout est bon. Et le messager du cheval, évidemment, ne résiste pas au plaisir de citer l'auteur de ce livre passionnant quand elle parle du cheval Yakout. Et alors, elle dit, moi je trouve ça formidable, « Vieux comme le mammouth, c'est un cheval très ancien, bon comme le cochon, nous venons de le dire, laineux comme un mouton, il est le vaisseau de la taïga et sa figure représente... » Alors là, c'est un peu mystérieux pour moi, sa figure représente une vache à l'envers.
Oui, c'est une étrange comparaison.
C'est une étrange comparaison, voilà. Alors bien sûr, il faut savoir que la civilisation du cheval, une civilisation du cheval est un livre d'une profonde érudition, donc c'est une spécialiste, et avec ce plus des grands scientifiques de très haut niveau, donc c'est de rendre la lecture de cet ouvrage accessible à tous. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être bac plus je ne sais combien pour récolter tout le miel de cet ouvrage. Alors là, par contre, je vais te laisser jouer, Virginie, parce que là, si tu es vraiment dans un de tes domaines, qui sont les orientalistes peintres voyageurs 1828-1908 de Lynn Thornton. Donc c'est ACR Édition. Alors, c'est quoi ces orientalistes ?
Alors, ce sont des peintres ou des écrivains, mais je pense que dans le cas du livre, on parle plus de peintres, qui se sont exprimés, enthousiasmés par une idée de l'Orient, qui était souvent une idée idéalisée, mais qui nous vaut de magnifiques tableaux dans des paysages extraordinaires, des tableaux qui nous font rêver.
Est-ce que tu pourrais citer quelques noms de ces peintres ou de ces...
Moi, il y en a un que j'aime énormément, c'est Fromentin.
Fromentin, oui, bien sûr, oui.
Eugène Fromentin, sa chasse au faucon, pour moi, reste une des plus belles, un des plus beaux tableaux que je connaisse.
Et est-ce que tu pourrais dire deux ou trois mots sur la lumière qu'ont essayé de rendre les orientalistes, qui est peut-être quelque chose de très très important. C'est la chose que l'on regarde, c'est-à-dire la lumière et les ombres.
Ben déjà, c'est une lumière. Bon, beaucoup d'entre eux ont été en Algérie, non, beaucoup, et ont découvert une lumière complètement différente, forcément, de ce qu'ils connaissaient en Europe. Et ça, ils en ont joué, comme tu le disais, au niveau des bleus.
Et les fameuses ombres bleues, justement.
Voilà, au niveau des ombres bleues, créant enthousiasmés par ces paysages sans fin, de bord de mer, du désert, qui les a profondément marqués.
Et de scènes de rue aussi, dans ces petites rues étroites,
oui,
des Médinas.
Oui, les marchés aux chevaux, les Médinas.
Donc ça a été pour cette génération de peintres une véritable révélation, enfin, découvrir ces paysages. Alors, le fameux voyage en Orient, ben, il y en a eu deux, on peut dire. Alors parle-nous en deux mots du premier voyage en Orient.
Tu fais allusion aux croisades ?
Ah non, non, alors là c'était l'expédition en Orient. Alors, est-ce qu'ils allaient en Afrique du Nord ? Non. Le fameux premier voyage en Orient, c'était Rome.
Alors là, c'est une période que moi, je ne connais pas bien, Michel.
D'accord. Bon, ben, on met ça légèrement entre parenthèses. Et puis, je terminerai par l'univers des Celtes de Parry Cunliffe, hein, ou Cunliffe, je ne sais pas comment on le prononce. Peut-être qu'il y a un avantage. C'est un professeur à Oxford, un historien à Oxford, qui aura peut-être l'avantage, son ouvrage, de un petit peu rendre les Celtes un petit peu moins mystérieux ou un petit peu fourre-tout. Voilà. Et donc, pour pastiger une formule célèbre du général de Gaulle, les peuples celtes n'occupaient pas un territoire allant de Dunkerque à l'oasis de Tamaranset dans la partie algérienne du Sahara, puisque les Celtes, on les fourre un petit peu partout. Hein. Originaires peut-être du plateau iranien, donc ce ne sont pas des gens qui viennent des steppes d'Asie, hein, c'est le plateau iranien. Ils arrivent dans la péninsule européenne entre le 6e et le 1er millénaire avant notre ère, où ils finissent par occuper un espace circonscrit entre les Pyrénées et le Rhin, du sud au nord, et de la Roumanie à l'Irlande, d'est en ouest. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont arrivés en Europe dans une période qu'on appelait encore la période néolithique. Donc c'est très très ancien. Alors c'était à la fois bon des maraudeurs impénitents, des mercenaires aussi qui étaient très appréciés, aussi bien par les Assyriens et plus tard par les Romains qui les embaucheront bien sûr. Et en particulier c'était apprécié par leur talent de cavalier et on le disait, le mépris du danger. Mais c'était des très bons cavaliers ces gens-là. Et ils étaient aussi réputés pour être vraiment des gens qui savaient travailler les métaux. Voilà. Donc ça, ils connaissaient bien le truc, la forge, tout ça, ils connaissaient tout cela. Et alors, en parcourant cet magnifique album, donc l'univers des Celtes, on découvrira non seulement que la langue celte est toujours pratiquée en Irlande, en Écosse, au Pays de Galles, en Cornouailles et en Bretagne, la Bretagne française, bien sûr. Donc, c'est l'ossature des langues qui sont parlées dans ces pays-là. Mais aussi une occasion de faire connaissance d'un cheval extraordinaire que tu connais bien, Virginie, qui pâture depuis un peu plus de 2000 ans dans le sud de l'Angleterre. En fait, un fringant coursier de 100 mètres de long. Alors, est-ce que tu pourrais dire deux mots sur ce fringant coursier de 100 mètres de long?
Ah, on peut dire que c'est une sculpture en soie, ancrée, me semble-t-il.
Oui, dans la craie.
Dans la craie,
oui.
Bon, qui doit être vue d'avion parce que.
Oui, c'est cela. Et alors,
avoir une vision complète parce que au sol, c'est un petit peu difficile.
Oui, tout à fait, absolument. Et c'est ce qui est très, très étrange, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de colline autour. Donc, les gens qui ont fait ça, les Celtes qui ont fait ça, ont fait une gravure impossible à regarder, si je puis dire. Voilà. Alors, j'aimerais bien aussi parler d'un ouvrage formidable d'une certaine Virginie Bauer. qui s'appelle L'éducation du cheval dans la joie. Donc c'est vraiment 110 pages captivantes qui nous retracent le parcours équestre de Jean-Yves Bonnet. Donc tout le monde connaît Jean-Yves Bonnet qui a longtemps participé à l'émission du Messager du cheval et qui est quand même quelqu'un d'extraordinaire parce qu'à la fois il a la pratique de l'équitation très classique, je dirais par exemple de Saumur, et puis en même temps avec un espèce de zeste de folie, c'est-à-dire il a inventé plein de choses, Jean-Yves Bonnet. Donc, il pouvait passer de l'un à l'autre. Alors, tu le connais bien, en deux mots?
Jean-Yves, c'est un pionnier. Il a tout fait avant tout le monde. Et c'est ça, sa force. Tu le disais, l'équitation classique, la randonnée. Il a monté aussi en voltige. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il ne limite pas le cheval à une spécialité. Aujourd'hui, on a tendance à tout professionnaliser. Alors que tous les chevaux de Jean-Yves sont capables de tout faire. On peut les voir aussi bien en voltige, en dressage, en chevalerie. Et il a su mettre en valeur cette polyvalence du cheval qui fait que c'est un cavalier exceptionnel.
C'est un cavalier exceptionnel et je me plais toujours à rappeler que Jean-Yves a commencé à monter à cheval sans professeur, tout seul.
Tout à fait.
Alors son père, si, était hongroyeur.
C'était son grand-père.
Ou son grand-père qui était hongroyeur, voilà, c'est ça. Donc il est, bon, évidemment, et puis à l'époque, les chevaux étaient, on les voyait facilement, puisqu'il y avait, je crois, toujours une diligence qui faisait la route entre, qui allait jusqu'à Rodez, quoi, qui partait je ne sais plus d'où, au sud d'Aveyron, et qui allait jusqu'à Rodez. Et Jean-Yves se souvient d'avoir vu passer cette diligence. Mais on va s'accorder maintenant une pause musicale avec Charles Trenet. Vous oubliez votre cheval, et ce n'est pas bien.
Coiffé d'un large sombrero, vêtu d'une veste à carreaux et chaussé de bottes légères. Hier, dans une boîte de nuit, on vit arriver, seul sans bruit, un homme d'allure étrangère. Ses yeux avaient des reflets verts, c'étaient les reflets des pelouses. Sa voix avait un timbre clair, il avait l'accent de Toulouse. Un peu plus tard, quand il sortit, en donnant son ticket de vestiaire, la dame du vestiaire lui dit cette phrase très singulière. Monsieur, monsieur, vous oubliez votre cheval. Ne laissez pas ici cet animal, il y serait vraiment trop mal. Monsieur, monsieur, pour un pur sang dans un vestiaire, c'est triste de passer la nuit entière sans même coucher sur une litière. Comme il s'ennuyait et comme il bâillait, je chantais pour qu'il soit sage. Comme il avait faim, que j'avais plus de pain, j'ai donné un peu de potage. Monsieur, monsieur, chose pareille est anormale. Ne laissez pas ici cet animal, vous oubliez votre cheval. 50 ans plus tard, le jockey à ses petits-enfants expliquait aux vieux aventures invraisemblables. Il avait un sourire amer, et comme il se croyait loup de mer, il jurait et crachait à table. Tout en mâchonnant un mégot, il y allait de son bavardage. Il ne parlait que de cargo, de tempête et d'abordage. Mais les petits enfants pas dupés, montrant un tableau qui s'effrite, s'écriaient grand-père, ce beau pré, c'est-il la mer ou Maison Lafitte? Grand-père, grand-père, vous oubliez votre cheval, vous nous menez en bateau, c'est normal, mais vous n'êtes pas amiral. Grand-père, grand-père, jamais vous ne fûtes corsaire, et vous n'avez connu le mal de mer que lorsque vous montiez prospère. Dites-nous plutôt, comment à plutôt vous avez connu grand-mère, comment à Paris, le soir du Grand Prix, vous êtes foutu la gueule par terre. Grand-père, grand-père, vous n'êtes pas un vieux loup de mer, vous n'êtes pas non plus un amiral, vous oubliez votre cheval. Votre cheval.
Alors moi je vais vous présenter trois ouvrages un peu différents de ce qu'a présenté Michel. Le premier c'est Smokey, c'est un roman américain écrit par Will James en 1927 et qui n'avait jamais été traduit en France. Et pour tous ceux qui aiment le western, les grands espaces et les Mustangs, il faut lire Smokey. D'autant plus qu'il est illustré par les dessins de l'auteur et qui apporte un charme un peu suranné, mais extrêmement bienvenu à ce très beau livre traduit par Louisina de Sane et Guy de Gallard. Le deuxième livre, moi, qui m'a absolument fasciné cette année, c'est le studio Dalton. Un studio qui était spécialisé en photographie hippique à la fin du 19e siècle, puisque c'était en 1860 qu'il a ouvert ce studio. Et on découvre de magnifiques photos en noir et blanc de personnages de l'aristocratie, de cochers, de fiacres, de chevaux. Et ça, c'est un très beau rapport et une très belle pensée pour tous ces hommes et ces chevaux qui... Il y avait 80 000 chevaux à Paris à cette époque-là, 50 000 personnes qui travaillaient sur le cheval, et c'est un bel hommage que leur rend le studio Dalton. Et enfin, pour terminer, un magnifique album, l'Almanach de Zingaro, qui revient sur 30 ans du spectacle et de recherche créative, et qui est remarquablement maquetté, où se mêlent dans un pêle-mêle des photos, des diapositives, des gravures, des articles qui nous rappellent l'extraordinaire univers de Zingaro, avec également de très belles photos prises au cours des spectacles.
Alors, on arrive au dicton de la semaine. Il nous vient de Bretagne. Voilà, on reste un petit peu dans le même endroit. Et un cavalier qui ne sait pas marcher longtemps à pied ne tiendra pas longtemps à cheval. Et toc. Nous arrivons au terme de cette émission. C'est avec plaisir que le messager du cheval vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9. Il est également présent tous les mercredis à 12h35 et les samedis à 10h sur Villefranche, CFM Villefranche de Rouergue 90.2. Vous pouvez réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le messager du cheval. Merci à toi, Virginie, pour ta concision et ta précision dans tes propos. Merci à toutes et à tous de nous rester fidèles et bien sûr un grand bravo à nos chevaux. Ciao, ciao.